Ce récit de la pêche miraculeuse dans l'évangile de Jean est une histoire bien sympathique, histoire de retrouvailles, une partie de pêche, une baignade et même un barbecue sur la plage. Et cela est bien agréable pour le moment où l'été arrive. On aime cette histoire. La question de savoir ce qui s'est passé me semble sans intérêt. On peut faire une lecture fondamentaliste du texte et se dire que si on est chrétien, avec l'aide de la prière, on peut devenir des pêchés beaucoup plus. Mais je ne crois pas que les marins pêcheurs croyants pêchent plus de poissons que les incroyants. Donc à mon avis, ça ne doit pas tout à fait être l'histoire. Et comme dans beaucoup de récits de miracles de l'Évangile, certainement ne faut-il pas les lire au pied de la lettre, mais essayer de comprendre le sens qu'il peut y avoir derrière. Le décodage n'est pas très compliqué à première vue. Parce qu'en effet, on sait que dans la Bible, la mer représente toujours la mort, la difficulté, l'épreuve. C'est la mer, c'est l'eau du déluge, c'est la mer que doit traverser le peuple pour sortir d'Égypte ou pour entrer en terre promise. Et donc la mer est toujours le symbole des problèmes de la vie, je dirais, des difficultés. Et quant à la pêche miraculeuse, il y en a plusieurs dans l'Évangile. En général, on dit qu'on les interprète en disant que tout le travail du chrétien, et avec l'aide de Dieu, c'est d'essayer de voir comment, dans un océan de mer, on pourrait même rajouter « DE » à la fin, pour représenter ce que certains vivent dans leur existence, dans un océan de problèmes, de difficultés et d'épreuves, comment est-ce qu'on arrive à trouver là-dedans des parcelles de vie ? Parce que les poissons sont des animaux extraordinaires qui arrivent à vivre même là où normalement on ne vit pas. C'est-à-dire comment dans un océan de tristesse, de deuil et d'épreuves, on arrive à trouver quand même des petits éléments de bonheur, de vie, de joie et d'espérance. Et ça n'est pas simple. D'autant plus que vous savez peut-être, puisque je vous l'ai déjà dit, c'est que le poisson qui est en hébreu se dit « dag », qui est un anagramme de Gad, qui veut dire le bonheur. Et donc le poisson, c'est justement l'image du bonheur et de la survie. Ce n'est pas pour rien que les premiers chrétiens ont pris comme symbole le poisson, comme symbole du Christ, puisque le poisson est justement celui qui vit même dans la mort, comme le Christ vit à travers la mort. Alors donc, comment trouver des parcelles de vie dans la difficulté ? Et ça, on nous le dit depuis qu'on est tout petit, on peut toujours trouver du bien dans les épreuves. Et même dans les moments les plus sombres, on peut toujours trouver quelque chose qui est source de vie, de bonheur ou de force. Mais le texte, je le trouve formidable parce qu'il est très réaliste, le texte nous dit que même si on croit que c'est vrai, eh bien ça n'est pas si simple. Et parfois, comme les disciples, on a beau chercher, recreuser, et en particulier toute la nuit, encore une autre image de l'épreuve ou de la difficulté, eh bien ils disent, eh bien tu me dis que dans toute épreuve on peut tirer quelque chose de bon, eh bien les disciples disent, eh bien moi écoutez, j'ai beau chercher, je ne trouve rien. Voilà, c'est pas si simple. Alors ils ne trouvent rien, et c'est là où le texte devient intéressant, parce qu'on va voir comment à la suite de cette première idée, première impression d'échec, d'incapacité de trouver quoi que ce soit de positif dans leur vie, comment le Christ va les aider finalement à changer la situation. Donc ils reviennent à terre, et là, un certain nombre de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, ils rencontrent le Christ. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle d'abord ? Eh bien on peut en douter, parce que si vous regardez bien, Jésus ne fait rien. Il ne leur dit pas, écoutez, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas trouvé, mais venez à moi, je vais vous fournir du poisson en abondance, comme si la foi était une sorte de refuge qui nous permettait de nous donner les joies qui nous manquent dans notre vie terrestre. Eh bien non, ils rencontrent Jésus, mais Jésus ne leur donne rien. Voilà. Donc la bonne nouvelle est ailleurs. Mais c'est une bonne nouvelle quand même pour plusieurs raisons. D'abord, dirais-je, parce que même si Jésus ne leur donne rien, ils rencontrent quand même quelqu'un. Et peut-être que la pire des épreuves, c'est de se trouver tout seul dans sa quête et de se dire « il n'y a personne à côté de moi, personne pour me parler, tout le monde est totalement indifférent à mon sort et à ce qu'il m'arrive ». Et là, il rencontre quelqu'un. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ils rencontrent quelqu'un qui va les écouter, qui va se mettre en dialogue avec eux. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Christ se trouve sur leur chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui le cherchent. Il se trouve devant eux au moment où ils en ont besoin. Donc voici la première bonne nouvelle. Même si je ne cherche pas le Christ, il se met toujours sur ma route pour pouvoir m'aider. Et même s'il ne fait rien, eh bien, il est là. Bon, évidemment que si vous appelez Dieu au secours, il viendra. Mais en fait, les disciples n'appellent même pas Dieu au secours. Et néanmoins, même quand on ne l'appelle pas, le Christ est présent devant nous sur notre route. Mais vous remarquerez qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc, ils ne le savent pas, en fait. Mais le Christ est présent et il va faire beaucoup de choses. D'abord, il va débloquer la situation. Et il va le faire en disant quelque chose de très, très intéressant. Il leur pose une question. Et il leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ah, alors, en quoi cette question que Jésus pose va débloquer la situation ? Eh bien, je vois deux possibilités. La première, qui est un peu de la psychologie de fond de cours, c'est que on peut dire que Jésus va aider les disciples à verbaliser leurs problèmes. Et les disciples vont dire effectivement, bah oui Seigneur, c'est vrai, nous n'avons rien pris. Et les psychologues nous disent que admettre son problème, c'est déjà l'avoir résolu en grande partie. Et donc oui, ils disent déjà, et c'est bien, ils disent, ben oui Seigneur, c'est vrai, je ne trouve rien. Voilà. C'est déjà bien de le dire et d'en prendre conscience, parce que quand on verbalise les choses, on peut reconstruire et peut-être aussi chercher autrement, refaire autrement. Et ça, c'est ce qu'ils vont faire, parce que du coup, ça va les inviter à rechercher autrement, et il va leur dire, eh bien, cherchez donc peut-être d'une autre manière, cherchez du côté droit plutôt que du côté gauche. Et ça, c'est intéressant, puisque effectivement, ils vont repartir, rechercher encore dans cette vie où ils avaient pourtant tant gratté, mais ils vont chercher autrement, avec un autre état d'esprit, et là, ils vont trouver des choses, des poissons, donc des parcelles de vie, d'espérance et de confiance. Jésus leur dit « Cherchez du côté droit », là encore, petit conseil de psychologie de magazine, c'est-à-dire, soit chercher du bon côté, essayez déjà de voir le bon côté des choses, le droit c'est le bon et la gauche c'est la sinistra, le mauvais côté, donc déjà essayez de voir les choses du bon côté, ça peut peut-être être une piste pour vous aider à trouver des sources de vie. Ou alors, parce que vous savez sûrement aussi que les cartes géographiques du temps du Christ étaient orientées, c'est-à-dire tournées vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est. Nous, nos cartes, enfin, vous n'utilisez peut-être plus de cartes avec les GPS, ont le nord en haut, si vous voulez, donc l'Orient est à droite. Les cartes du temps de Jésus étaient sur le côté, comme ça, et donc l'Orient était en haut, et à droite, c'était le sud, et à gauche, c'était le nord. Donc le côté droit, c'est le bon côté, c'est le côté de la lumière. Voilà. Et donc il leur dit « Cherchez du bon côté, mais surtout, cherchez du côté qui est éclairé. » Éclairé par le Christ, évidemment. Et si on recherche les choses avec un autre éclairage, qui est peut-être celui de l'Évangile, eh bien nous pouvons trouver. « N'avez-vous rien à manger ?» dit Jésus. Donc, première possibilité, il les aide à verbaliser les choses. Deuxième possibilité, plus intéressante, c'est de voir cette demande non pas comme une interrogation sur leur état, mais sur une demande. Jésus leur dit, vous n'auriez pas un truc à manger pour moi ? Donc il veut à manger pour lui. C'est curieux d'ailleurs, parce qu'ils n'ont rien, donc Jésus devait le savoir. Mais en fait, s'ils retournent pour chercher, c'est plus pour eux, c'est pour le Christ. Ils se disent, Jésus, il a besoin de poissons, donc on y retourne. Et ils retournent pour chercher non plus pour eux, mais pour quelqu'un d'autre. Et ça, alors là, on commence à s'élever déjà un peu d'un niveau, d'un point de vue psychologique. Quand on cherche le bonheur, non pas pour soi, mais pour les autres, on a beaucoup plus de chances d'en trouver. C'est difficile de trouver pour toi, pour soi-même, des sources de joie ou d'espérance. Mais quand on se demande comment on peut donner de la joie ou de l'espérance à l'un ou à l'autre, alors là, j'ai mille idées. C'est beaucoup plus facile. Et en plus, quand on donne pour les autres, on le voit dans l'histoire, on en a des montagnes et des montagnes de choses, et il en reste même pour soi. Donc peut-être que justement, la chose géniale, c'est ça, c'est qu'au lieu d'essayer de pécher pour eux, ils vont pécher pour le Christ. Et ça les sort de leur, finalement, de la seule chose qui soit vraiment mortifère, qui est l'égoïsme. Ça les sort de leur nombrilisme. Je veux du poisson pour moi, je cherche du bonheur, je cherche de la joie. J'ai eu de nombreuses personnes qui sont venues me voir dans mon bureau pastoral, me demandant un entretien, me disant « Ah, monsieur le pasteur, je voudrais vous voir parce que j'aimerais en fait avoir la foi, parce que je pense que ça m'aiderait, ou alors parce qu'on m'a annoncé une grave maladie, je pense que la foi pourrait me donner une dimension, etc. » Toutes ces requêtes ont toujours été vouées à l'échec, à mon avis, en tout cas de ce que j'ai expérimenté. Si vous cherchez la foi pour vous, vous êtes dans la mauvaise solution. Dès qu'on cherche pour les autres, on trouve, et là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la démarche de la foi ne peut être que désintéressée. Et l'opposition de la foi, ce n'est pas l'athéisme ou ce que vous voulez, c'est l'égocentrisme, c'est le nombrilisme, c'est le repli sur soi-même. Quand on est dans le repli sur soi-même et qu'on se considère que sa propre histoire est la plus importante au monde et qu'on est la seule chose qui compte, qu'on est le centre de tout, on est dans la mort. Voilà. Et dès qu'on s'ouvre sur les autres, eh bien notre être nous-mêmes se dissout dans l'autre, dans l'universel et dans l'intemporel, et alors on est dans la vie éternelle. Alors ils vont chercher, là ils vont trouver, je vous l'ai dit, mais on pourrait dire, bon, c'est parce qu'ils vont du coup le faire pour Dieu, le faire pour le Christ, le faire... Eh bien même pas, puisque le texte dit bien qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc, je suis obligé de ravaler mes discours bien, bien religieux en disant « si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour Dieu ». Non, ils le font pour quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas, c'est-à-dire pour un inconnu, même pas un ami, un inconnu qu'ils rencontrent sur la plage, ils ne savent pas qui c'est. C'est le Christ, certes, mais ils ne savent pas qui c'est. Donc la solution, c'est ça. Eh bien, je vais retourner pêcher toute la nuit du poisson, alors je croyais n'en pas trouver, pour lui. Je ne sais même pas qui c'est, je l'ai rencontré, c'est comme ça. Le hasard l'a mis sur mon chemin, et c'est à lui que je vais donner du poisson. C'est à lui que je vais essayer de donner du bonheur. Et c'est là que ça fonctionne. Alors, il y a effectivement, cela dit, encore une autre bonne nouvelle, parce que je vous ai dit, non seulement ils vont en trouver du poisson, dès qu'on cherche pour les autres, c'est plus facile, mais que même, ils en auront encore pour eux, je vous l'ai dit, mais ils arrivent ensuite sur la plage et là, ils trouvent un barbecue tout allumé avec déjà du poisson dessus. C'est-à-dire que non seulement, quand on veut donner du bonheur ou de l'espérance aux autres, on en a pour soi, mais en plus, le Christ nous en redonne encore en plus, qui n'est même pas celui que nous avions cherché par nous-mêmes. Donc il y a une sorte d'extra-gift donné par le Christ ou par Dieu qui nous redonne encore plus un poisson, sans doute très bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a là, préparé sur la plage, une grillade. Les poissons sont tout grillés, tout faits, tout bons et à votre disposition. Donc ça, c'est ma première prédication, mais comme je vous ai dit que je n'avais pas beaucoup préparé pour me faire pardonner, je vais vous en donner une deuxième. La deuxième lecture que l'on peut faire, c'est que cette image de la pêche miraculeuse, c'est soit de pêcher des poissons pour soi, et les pères de l'Église en particulier le lisaient en fait autrement, parce qu'eux, ils étaient omnubilés par l'idée du salut des âmes. Et il disait en fait, la pêche miraculeuse, c'est d'aller chercher des parcelles de vie qui sont dans les profondeurs des ténèbres pour les ramener à la lumière, autrement dit, c'est-à-dire pour les sauver. Et donc il s'agit en fait de ramener des êtres tout entiers à la lumière pour les sauver et les transformer. Et ça, c'est justifié par la parole qu'il y a dans les synoptiques. Vous savez, les trois premiers évangiles, quand Jésus prend Pierre et ses disciples et il leur dit... ils étaient en train de pêcher, Jésus leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». C'est-à-dire, au lieu de ramener des poissons à la lumière, vous allez prendre des pauvres gens perdus dans leur vie et les ramener à la lumière du Christ. Alors, en fait, ce n'est pas que par nous, Dieu puisse sauver l'un ou l'autre. Je pense que Dieu sauve tout le monde. Mais on pourrait dire pour nous plutôt comment aider à tirer des êtres hors de la mort, hors du désespoir, hors du deuil, hors de la difficulté, pour les amener à la joie et l'espérance. Comment on peut faire, en fait, pour aider des gens? Voilà, c'est ça la question. Et là, nous avons la méthode de Pierre. Alors, je vais m'intéresser à Pierre lui-même, de savoir comment il fait pour, justement, être capable de ramener des poissons à la lumière. La première chose très étonnante, et ce texte est bourré de détails surprenants, c'est que le texte nous dit que dès qu'il voit que c'est Jésus, Pierre se mit un vêtement car il était nu et il se jette à la mer. Avouez que c'est assez étonnant, on ne voit pas trop l'intérêt de la chose, mais en fait ça en a beaucoup. D'abord, il met un vêtement, en fait le texte dit qu'il met une ceinture. Alors, on suppose que s'il a mis une ceinture, il y avait un pantalon en dessous, mais en tout cas le texte dit qu'il se ceint de quelque chose. Ça, se mettre sa ceinture, c'est un thème biblique qui veut dire simplement se tenir prêt pour aller au boulot. C'est pour ça que normalement dans les robes des pasteurs, il y a toujours une ceinture pour dire « je suis prêt pour aller au boulot » et l'Évangile dit que vos reins soient saints, c'est-à-dire C-E-I-N-T-S, c'est-à-dire que vous soyez prêt pour aller au travail. Et donc, première chose que fait Pierre, il se dit « allez hop, au boulot, je mets ma ceinture, je mets ma tenue de travail et j'y vais ». Ben oui, il faut y aller, je veux que je vous dise, si vous restez assis dans votre fauteuil, bon, ça va être compliqué, donc il faut y aller. Ensuite, on nous dit qu'il met un vêtement pour cacher sa nudité. Là aussi, c'est une petite lecture biblique assez simple. La nudité dans la Bible représente en général l'imperfection. Et mettre un vêtement, c'est cacher l'imperfection, sa propre imperfection, pour éviter d'agresser les gens autour de soi. Autrement dit, mettre un vêtement, c'est avoir conscience de que l'on n'est pas parfait et d'essayer de faire en sorte de ne pas imposer son imperfection aux autres. Alors ça m'intéresse parce que aujourd'hui la mode un petit peu dans notre société, c'est de dire « Oh écoutez, je m'assume comme je suis et puis zut, les gens ont qu'à me prendre comme je suis ». Eh bien l'Évangile, d'une certaine manière, plaide non pas pour de l'hypocrisie, mais au moins pour une attention aux autres. En disant, écoutez, vous avez sans doute des défauts et des imperfections. Je ne vous demande pas d'être parfait, mais faites en sorte que vos défauts ne blessent pas les autres. Et donc mettez, si vous voulez, des vêtements. Tout vêtement est un artifice. Moi, je suis quand même plus joli que si je faisais la messe tout nu, ce ne serait pas terrible. Eh bien, on fait des efforts pour les autres. Certes, c'est extérieur, mais néanmoins, c'est une forme de respect pour les autres. Et donc, c'est prendre conscience de son imperfection, essayer de faire en sorte de ne pas l'imposer aux autres, c'est, je dirais, tout simplement la première chose de toute démarche chrétienne, qui est la confession des péchés. C'est ce qu'on fait au cours du culte. Première chose, oui Seigneur, je reconnais que je suis imparfait, je le sais, et j'ai besoin que tu m'aides pour que cette imperfection ne soit pas le dernier mot de mon être. Et je pense qu'effectivement, on ne peut vraiment aider quelqu'un que si déjà à la base on se sait imparfait. Lorsqu'on arrive vers quelqu'un en disant « mais moi je suis bon, je suis parfait, j'ai la foi, je suis merveilleux et toi tu es une misérable créature, je vais t'aider, pauvre crapaud de l'univers », ça n'a peu de chance de marcher. On ne peut aider les gens que si vraiment on a conscience déjà que soi-même il y aurait pas mal à dire. Ensuite il se jette à l'eau. Alors il se jette à l'eau, ça peut être qu'effectivement, comme pour la ceinture, écoutez, faut y aller. Si vous restez enfermé chez vous, ça va être difficile. Donc il se jette à l'eau. Et il y a des poissons à sauver, je me jette dans l'eau avec les poissons. Je me mets dans la situation de ceux que je veux aider. Et je vais partager leur vie, partager leurs problèmes, partager leurs difficultés de vivre. Et c'est quand vraiment on va partager la vie des autres que l'on peut arriver à les aider. Je dirais que, d'une certaine façon, c'est la raison pour laquelle l'Église protestante a toujours milité pour que les pasteurs soient dans la vie, parce que finalement c'est un petit peu facile d'être de loin et de n'avoir aucun problème ni de couple, ni avec ses enfants, ni avec ses adolescents, ni avec qui que ce soit, et dire « écoutez, je vais vous expliquer comment il faut faire ». Effectivement, on se jette à l'eau, et vos problèmes, je les ai aussi. Et les pasteurs, comme les autres, ont des problèmes avec leurs enfants, et les pasteurs, comme les autres, peuvent divorcer, les pasteurs, comme les autres, ont des difficultés. Eh bien oui, c'est en étant avec les autres qu'on peut avoir une chance de leur apporter quelque chose. Ou alors, c'est tôt, alors là, je reprends l'image prise par les pères de l'Église, qui, eux, étaient... Vous voyez toujours les choses sur un côté un petit peu sacramentel, si vous voulez. Moi, je vois les choses, je suis un homme pratique, donc je vois les choses avec simplicité, mais eux le voyaient d'une façon sacramentelle, en disant l'eau dans laquelle se jette Pierre, c'est en fait l'eau du baptême. Voilà. Ça, c'est la grande idée des pères de l'Église, et qu'en fait, Pierre se jette dans l'eau comme s'il revivait son baptême. Mais en fait, je l'avais déjà trouvé, ça. Tout à l'heure, en vous disant qu'il fallait accepter son imperfection, parce que le baptême, c'était un baptême de pardon des péchés, et donc l'eau, c'est d'accepter le pardon de Dieu, voilà. Et donc il laisse Dieu le vêtir lui-même, et de se dire que malgré son imperfection, même si je ne suis pas parfait, eh bien, j'accepte, je m'en remets au pardon de Dieu, donc je suis à la fois pécheur et pardonné. Ou alors l'eau, elle est aussi l'eau de la grâce. C'est ce que nous signifions quand nous baptisons un bébé. Nous disons, ben mon enfant, tu reçois la grâce de Dieu, c'est offert gratuitement. Donc l'eau, c'est la grâce, parce qu'il pleut sur les justes comme sur les injustes, et l'eau, la source coule pour tout le monde, la source d'eau. Donc l'eau est l'image de la grâce universelle de Dieu. Et se jeter dans l'eau, c'est se dire, eh bien, non seulement je vais vers les autres, mais je m'en remets à la grâce de Dieu. Et je quitte mes protections personnelles, mes sécurités, ce que j'essaye de faire dans mon bateau, je ne risque rien, et je me jette à l'eau, à la grâce de Dieu. Ça, c'est formidable. Et ce geste est extraordinaire de Pierre qui, effectivement, se jette en disant, ben, je compte sur une seule chose, c'est la grâce de Dieu. Avoir dans une confiance en Dieu, quitter ces petites protections, ces méthodes qu'on essaye de faire pour se protéger et se dire, eh bien moi je vais servir le Christ et Dieu lui-même pourvoira. Et grâce à ça, il va trouver 153 poissons. Et là je suis encore embêté parce que pendant des années j'ai cherché pourquoi il y avait 153 poissons et pas 152 ou 154. Je croyais avoir trouvé et j'ai un élément qui me montre que je n'ai pas tout trouvé. Saint Augustin et Saint Jérôme avant lui ont dit que c'était le nombre d'espèces de poissons connues à l'époque. Donc autrement dit, ramène tout, toutes sortes de poissons. C'est possible, d'autant plus que c'est confirmé par le récit que nous allons lire bientôt à la Pentecôte des Actes des Apôtres. En effet, 153 pour les mathématiciens. Cherchez dans Wikipédia 153 et vous verrez que 153 est un nombre mathématique absolument passionnant. C'est un nombre qui a des tas de particularités très étranges et entre autres qui est la somme des 17 premiers nombres. Vous prenez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 17, ça fait 153. C'est la somme des factoriels de tous les premiers nombres premiers. Enfin, c'est un nombre absolument bouleversant. Mais surtout qui renvoie sans arrêt à un autre nombre qui est 17. 153, c'est la somme des 17 premiers nombres, c'est aussi 17 fois 3 fois 3, et donc je me suis dit, 153, ça renvoie à 17. Et 17, c'est le nombre de nationalités citées dans la Pentecôte, quand on dit, vous savez, tous ceux qui étaient là, Parthes, Mèdes, Élamites, les Juifs de la Cappadoce, de la Syrie, de la Pamphylie, etc., il y a 17 nationalité signifiée, et cela voulait dire toute l'humanité. Donc voilà, deux éléments, soit c'est 153 toutes les espèces de poissons connues, soit c'est les 17 nationalités connues, enfin ça renvoie sans doute à l'universalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire je sauve les chrétiens, les croyants, les bons croyants, pas les mauvais croyants, pas ceux, ceci, tout le monde, Tout le monde, 153, tout le monde est ramené à la vie avec le Christ. Toute l'humanité est sauvée, le filet de Dieu reprend tout le monde et amène tout le monde au Christ. Nous sommes tous convoqués au barbecue formidable du Christ sur le bord de la plage. Mais 17, à part la Pentecôte, voilà mon mystère, c'est que 17, ça renvoie à l'histoire de Joseph. Et là, je ne comprends pas pourquoi. C'est le nombre d'années que passe Jacob en Égypte. Comme ça, vous voyez, la Bible dit qu'il passe 17 ans en Égypte. C'est l'âge qu'avait Joseph au moment où ses frères vont le trahir. C'est des tas de choses comme ça. C'est le nombre d'années que Joseph passe dans sa prison. Enfin, je ne sais plus. Et donc, 17 renvoie à l'histoire de Joseph et je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai un mystère, mais il vaudra d'autres réflexions. Peut-être que si je ne trouve pas avant ma mort, c'est une question que je poserai à notre Seigneur Jésus-Christ dès que je le verrai. Je lui dirai, pourquoi 153 poissons, enfin. Et donc, une fois accueillis, voilà, qui que nous soyons, nous sommes invités à aller sur la berge, sur place, pour partager ce banquet communautaire, ce moment extraordinaire, partagé d'une joie, dans l'amitié, dans la fraternité, où chacun mange ce qu'il a apporté, chacun partage ce que les autres ont apporté, avec en plus toutes les denrées merveilleuses qui sont celles que Jésus lui-même nous a offertes. Et j'avoue que, je vous l'ai dit au départ et je le redis maintenant, ce texte est pour moi une des plus belles images de tout ce que le Christ apporte dans une vie de simplicité, de joie, de partage, de confiance, d'espérance, de vie. Et c'est vraiment toutes ces bonnes nouvelles mélangées que je vous ai apportées comme une masse de poissons de différents ordres, en espérant qu'il y en ait un peu pour vous, parce que je crois qu'il y a tellement d'espèces de poissons qu'il y a autant d'espèces d'espérance possible, et que ce Christ ressuscité que nous évoquons à Pâques, eh bien, il a un poisson pour vous, et il a pour chacun de vous une bonne nouvelle, et pour chacun de vous une parcelle de vie et de bonheur qu'il vous offre, pour que nous les partagions ensemble. Amen.